Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 113, Daf Kuf Yud Gimel. Bonne écoute et bon limoud.
Umatan Saviv est le fait d'effectuer les aspersions de manière à ce qu'elles apparaissent sur les quatre côtés de l'autel. En effet, pour la majorité des sacrifices où il faut effectuer les deux aspersions qui font quatre, donc ces deux aspersions aux deux coins opposés de l'autel, de manière à ce que chaque aspersion se propage à la fois d'une part et de l'autre de ce coin. Ainsi, l'aspersion ou les aspersions se voient de tous les quatre côtés de l'autel. Ceci existe uniquement pour l'autel public, mais sur l'autel privé, on peut se contenter d'une seule aspersion. Utnufa est le fait de devoir balancer l'offrande à base de farine vers les quatre points cardinaux et vers le haut, vers le bas. Vehagasha, ou le fait d'approcher l'offrande vers le coin de l'autel. Ceci existe uniquement pour l'autel public et non pas pour l'autel privé. Nous pouvons déduire cependant que, selon le premier auteur de la Mishnah, il existe des offrandes à base de farine sur l'autel privé. Rabbi Yehuda Omer, en mincha bebama, il n'existe pas d'offrande à base de farine sur l'autel privé. La Mishnah poursuit les différences entre l'autel public et l'autel privé. Vekiun, et le fait que ce soit un Kohen qui doive impérativement effectuer le service, ceci existe que pour l'autel public, ou Bigdé Charet et les habits de service ou clés charrette et les ustensiles de service, qui n'existent que pour l'autel public, Vereach Nichoach, et le fait que le sacrifice doit dégager une bonne odeur sur l'autel. De là, la Gemara apprend plus haut d'Af Memvav qu'il est interdit de griller la graisse ou les parties du sacrifice avant de les offrir sur l'autel. Ceci n'existe que pour l'autel public. Ou Mechitsa Ledamim est la partition pour le sang, c'est-à-dire sur l'autel, il y avait un trait rouge qui séparait la moitié supérieure et la moitié inférieure de l'autel pour les différentes sortes d'aspersions. Car le sang du Korban Khatat devait être aspergé sur la moitié supérieure de l'autel, tandis que le sang des autres sacrifices devait être aspergé sur la moitié inférieure de l'autel. Ceci n'existait que pour l'autel public. Verichut Yadam Veraglaim, et l'exigence de laver les pieds et les mains avant d'effectuer les services n'existe que pour l'autel public. Aval Hazman, mais le fait que le sacrifice est invalidé par l'intention invalidante qu'il serait offert au consommé après le moment prévu par la Torah pour le faire, Hanotar, ou bien le fait qu'il soit interdit de consommer la viande du sacrifice après le moment prévu par la Torah pour le faire, Vehatame, et le fait qu'il soit interdit de consommer de la viande du sacrifice lorsque la personne est impure, Shavin Bezé ou Bezé, sont égales, c'est-à-dire existent soit pour celui-ci, soit pour celui-ci, soit pour l'autel privé, soit pour l'autel public. Nous avons fini sur le shiur de Maseret Zvachim Daf Kufyut Bet.
Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Kufyut Gimel à la cinquième ligne du haut de la page, au début de la Gemara. Nous avons vu au début de la Mishnah que celui qui brûle la vache rousse en dehors du puits creusé pour la brûler, il n'a pas transgressé l'interdiction. Alors la Gemara demande Maichutz Migita, que veut dire la Mishnah lorsqu'elle dit en dehors du puits creusé pour la brûler? Autrement dit, quel est l'endroit fixé pour brûler la vache rousse? La Gemara répond à Maresh Lakish, Chutz Mimakom Habadukla, c'est-à-dire s'il l'a brûlée en dehors de l'endroit qui a été vérifié pour la brûler, c'est-à-dire qu'il faut faire des fouilles à l'endroit où on désire brûler la vache rousse pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tombe en dessous. Car selon Resh Lakish, comme nous le verrons, le déluge a aussi dévasté Eretz Israël, il y a donc des risques qu'il y a des cadavres de cette époque. Amar lo Rabbi Yochanan, vehalo kol Eretz Israël b'dukahi. Pourtant, tout Eretz Israël est déjà vérifié, car comme nous le verrons par la suite, selon Rabbi Yochanan, le déluge n'a pas dévasté Eretz Israël, il n'y a donc pas à craindre qu'il y ait des cadavres n'importe où. Et là, Amar Rabbi Yochanan, plutôt Rabbi Yochanan dit que gon sheshachta lifnim mechomat Yerushalayim, s'il l'a sacrifié ou égorgé à l'intérieur des murailles de Yerushalayim, alors que le pasouk dit clairement qu'il faut sortir la vache rousse des trois camps, donc, de la ville de Yerushalayim. Et là-dessus, la Mishnah nous enseigne que même s'il l'a sacrifié à un endroit où cette sacrification n'est pas valable, il n'a pas transgressé l'interdiction. Alors, la Gemara demande, Belukma, que Gonch Shachta, Chutz Lachoma, Shelo Kenegeda Petach, Rabbi Yochanan n'avait qu'à établir la Mishnah dans le cas où il a sacrifié la vache rousse en dehors de la muraille de Yerushalayim, donc en dehors des trois camps, mais pas en face de la porte du sanctuaire. Dans cette situation aussi, la vache rousse est invalidée et la Mishnah nous enseignerait donc qu'il n'a pas transgressé l'interdiction. De'amar Rav Ada bar Ahava shachata shelo keneged apetach. S'il a sacrifié la vache rousse à un endroit qui n'est pas en face de la porte du sanctuaire, psula, cette vache rousse est invalidée. Shene'emar, car le pasuk dit dans Bamidbar Yutet concernant la sacrification de la vache rousse, veshachat, etc., vehiza, et il égorgera cette vache rousse et il aspergera de son sang en direction de la porte du sanctuaire. Alors ces deux actions sont juxtaposées, on les compare, pour dire « ma hazata keneged apetach » de même que l'aspersion de son sang est en face de la porte du sanctuaire, « af shritata keneged apetach » ainsi son abattage doit aussi avoir lieu en face de la porte du sanctuaire. « Vechitema de lomakish » et si tu veux me répondre que Rabbi Yochanan n'applique pas cette juxtaposition et donc ne les compare pas, « veha itmar » pourtant il a été enseigné une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Selon la Shitamuku Betset, nous sautons la parenthèse. Sarfa, shelo keneged apetach, s'il a brûlé la vache rousse à un endroit qui n'est pas en face de la porte du sanctuaire, Rabbi Yochanan amar, psula, la vache rousse est invalidée. De Rabbi Oshaya amar, kshera, la vache rousse est valable. La Gemara précise, Rabbi Yochanan amar, psula, la vache rousse est invalidée, car dans Bamidbar Yutet, le pasouk dit Vesaraf et il brûlera la vache rousse. Et auparavant, le pasouk avait dit Vehiza. Et il aspergera de son sang. Ces deux actions sont juxtaposées et on les compare. Donc, de même que l'aspersion du sang s'effectue en face de la porte du sanctuaire, il faut aussi brûler la vache rousse à cet endroit. Rabbi Oshaya Amar, Kshera, la vache rousse est valable, car le pasouk dit, toujours dans le même chapitre, Al Pircha Yisrof, il la brûlera avec ses excréments, donc sans laver ses intestins. Rabbi Oshaya interprète ce passage de la manière suivante, « Makom sheporeshet lemita » à l'endroit où cette vache quitte la vie pour mourir, donc là où elle est abattue, « Sham tehes refata » c'est là-bas où elle sera brûlée. Et puisque la Torah ne fixe pas d'endroit pour égorger la vache rousse, il n'y a donc pas d'endroit fixe non plus pour la brûler. En tout cas, selon Rabbi Yochanan, qui compare le fait de brûler la vache rousse à l'aspersion de son sang, il est évident qu'il compare aussi l'abattage de la vache rousse à l'aspersion de son sang. Donc selon lui, l'abattage de la vache rousse doit s'effectuer impérativement en face de la porte du sanctuaire. Puisque c'est ainsi, il n'a pas eu besoin pour interpréter la Mishnah d'aller jusqu'à dire qu'il s'agit d'un cas où elle a été sacrifiée à l'intérieur des murailles de Yerushalayim. La Gemara répond, Amrei lechachamim. De la Yeshiva ont répondu, Lomi baya kamar. Rabbi Yochanan a interprété la Mishnah de cette manière pour sous-entendre un chidouche. Lomi baya chutz lechoma, non seulement dans le cas où il a sacrifié la vache rousse en dehors de la muraille d'Erechu Kerarka, où il l'a éloigné du sanctuaire, lorsqu'il l'a sacrifié à un endroit qui n'est pas en face de la porte du sanctuaire, il est exempté, et la filou lifnim minachoma, même à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim de Kruvei Karva, où il a rapproché la vache rousse du sanctuaire, ve'ematit kasher, on aurait dit qu'en fait, la vache rousse devrait être valable, kamash malan, c'est pourquoi il nous enseigne que même dans ce cas, la sacrification, donc la vache rousse, est invalidée, et la Mishnah nous enseigne donc qu'il est quand même exempté, il n'a donc pas transgressé l'interdiction. La Gemara reprend cette discussion entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, Amar lo, Rabbi Yochanan lui a dit à Resh Lakish, ve'alo kol eretz Israël b'dukahi. Pourtant, tout Eret Israël est vérifié, il n'y a pas à chercher de cadavre ou de tombe sous la terre. La Gemara demande de Maïka Mefleget, en quoi discute Rabbi Yochanan et Resh Lakish? La Gemara répond, Mar Savar, un des deux pense, Resh Lakish pense, Yarad Maboul l'Eret Israël, le déluge est tombé en Eret Israël, il l'a donc aussi dévasté, il y a à craindre qu'il y ait des cadavres n'importe où en Eret Israël, il faut donc procéder à des fouilles si on veut sacrifier la vache rousse à un endroit quelconque. Omar Savar, tandis que l'autre pense, Rabbi Yochanan pense, Lo Yarad, le déluge n'est pas tombé en Eret Israël, il ne l'a pas dévasté. Donc il n'y a pas à craindre qu'il y ait des cadavres sur place, il n'est pas nécessaire de procéder à des fouilles avant de sacrifier la vache rousse. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Ushnehem Mikra Echad Darshu, ils ont tous les deux interprété le même verset, l'un pour dire que le déluge a dévasté Eret Israël, tandis que l'autre a déduit que le déluge n'a pas dévasté Eretz Israël. Il s'agit du pasouk dans Yechezkel Kafbet qui dit comme suit: Ben Adam emorla at Eretz lo metuharahi lo gushma beyom zam. Homme, dis-lui donc aux habitants d'Eretz Israël, tu es une terre qui n'est pas purifiée, ce qui veut dire que les Bnei Israël ne se sont pas repentis. Elle n'a pas eu de pluie le jour de colère, c'est-à-dire étant donné qu'ils ne se sont pas repentis, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère, il a arrêté la pluie. Rabbi Yochanan et Resh Lakish interprètent tous les deux ce passouk dans un autre contexte. L'expression Metuhara voudrait dire purifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impureté. Et l'expression Biyom Zaham, la colère, fait allusion au déluge. Rabbi Yochanan Savar, Rabbi Yochanan pense, Atmuhi Matmahkra, le passouk s'étonne. Eret Israël, mi lom Metuhara at, n'es-tu pas purifié? Klum Yardu Alechag Shamim Biyom Zaham, est-ce que la pluie est tombée le jour des colères sur toi, sur Eretz Israël? Donc, le pasouk veut dire en fait que le déluge n'a pas dévasté Eretz Israël, donc la terre d'Eretz Israël est pure, car il n'y a pas à craindre qu'il y ait des cadavres de l'époque du déluge enfouis sous terre. Resh Lakish Savar, Resh Lakish pense, Kepashté, on interprète le pasouk de la manière simple, donc sans exclamation, Eretz Lom Toharaat. Tu es une terre qui n'est pas purifiée. Mi lo yardu alayir kshamim beyom zaham. Est-ce que la pluie du déluge n'est pas tombée sur toi le jour de colère, donc le jour du déluge? Donc selon lui, il y a à craindre que les cadavres de l'époque du déluge sont enfouis n'importe où dans Eretz Israël. Il faudra donc procéder à des fouilles avant de sacrifier la vache rousse à l'endroit où il désire le faire. Et Tivé, Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Resh Lakish a opposé à Rabbi Yochanan la Mishnah suivante dans Masechet Para Peregimel Mishnah Bet. La Mishnah dit, Chatzerot Hayu Birushalayim, il y avait des cours dans la ville Yerushalayim, Bnuyot Alasela, qui étaient construites sur un rocher, Betartehen Chalul, Mipne Keveratom, et en dessous d'elle, il y avait un espace d'un tefar de hauteur, pour le cas où il y aurait en dessous de cette cour une tombe inconnue, cet espace d'un tefar fait en sorte que l'impureté s'arrête à cet espace et n'arrive pas à la cour. Mevi'in nashin meubarot, on amène là-bas des femmes enceintes, veyoldot, et elles mettent au monde un enfant là-bas. Umegadlot sham benehem lepara, et elles élèvent leurs enfants là-bas pour qu'ils servent à la vache rousse, c'est-à-dire à purifier le Kohen qui s'occuperait de la vache rousse. En effet, le Kohen qui brûlait la vache rousse devait s'isoler pendant 7 jours dans le Beth Amikdash avant de sacrifier la vache rousse, et il devait se purifier pendant ces 7 jours avec de l'eau contenant de la cendre de la vache rousse. Pour ce faire, les Chachamim ont institué d'utiliser des enfants qui n'ont jamais été en contact avec un mort, et donc ils n'ont jamais eu l'impureté du mort. Les Chachamim ont décrété cela car il y avait une grande discussion entre les Chachamim et les Sadducéens. Les Sadducéens pensaient que le Kohen qui sacrifiait la vache rousse devait être entièrement pur. S'il était devenu impur et s'était purifié dans un bain rituel, il devait attendre la tombée de la nuit, donc le lendemain, pour sacrifier la vache rousse. Tandis que selon les Chachamim, il suffisait de se purifier dans le bain rituel, même sans attendre la tombée de la nuit, pour sacrifier la vache rousse. Pour appuyer ce point, avant que le Kohen sacrifiait la vache rousse, il le rendait impur, puis après il lui disait de se tremper dans un bain rituel pour sacrifier ensuite la vache rousse le jour même. Pour ne pas que cela entraîne des négligences concernant la pureté du Kohen, ils ont été beaucoup plus stricts concernant sa pureté. C'est pourquoi d'ailleurs il devait s'isoler pendant 7 jours et on devait asperger sur lui pendant tous les 7 jours de l'eau contenant de la cendre de la vache rousse, et ceux qui s'occupaient de ces aspersions, comme nous le verrons par la suite dans la Mishnah, devait ne jamais avoir été impur par contact d'un cadavre humain. C'est pourquoi on élevait ses enfants dans des cours où il n'y a pas de possibilité qu'il y ait eu une impureté par contact d'un cadavre ou d'une tombe inconnue, voire le Tosfot. Lorsqu'il devait sortir pour chercher l'eau dans laquelle on verserait de la cendre de la vache rousse, la Mishnah poursuit, « Umevin shvarim » on amenait des taureaux, des bœufs, « Valgabem dlatot » et sur eux, il y avait de grandes portes, Vetinokot Yoshvin Alehen, et ses enfants s'asseyaient sur ces portes, de manière à ce que même si sur la route il y avait une tombe inconnue, cette porte faisaient un écran et empêchaient l'impureté de passer. Vekosot Sheleven Beadam, ils avaient dans leurs mains des verres en pierre qui ne sont pas susceptibles de devenir impurs. C'est aussi un décret spécial des Chachamim concernant tout ce qui concerne la vache rousse. Ou Milou, et lorsqu'ils arrivaient sur place à la source, ils remplissaient ces verres d'eau, Veyashvu Bimkomam, et remontaient s'asseoir sur ces portes. En tout cas, nous voyons dans cette Mishnah que les Chachamim craignaient une tombe inconnue, ce qui prouve qu'il y a une possibilité qu'il y ait des cadavres ou des tombes inconnues. Apparemment, c'est parce que le déluge a dévasté Eretz Israël, contrairement à l'opinion de Rabbi Yochanan. L'Agma répond, Amar Rav Huna Bereh de Rabbi Yoshua, Ma'ala Asu Bepara. C'est un décret rigoureux que les Chachamim ont émis spécialement concernant les lois de la vache rousse, pour les raisons que nous avons dit précédemment, qu'on ne vienne pas à négliger les lois de la pureté concernant la vache rousse. Mais en fait, ce n'est pas parce que les Chachamim ont réellement craint qu'il y a une possibilité qu'il y ait une tombe cachée dans une cour quelconque. Il n'y a donc pas de preuve que le déluge a dévasté Eretz Israël. Et Tivé, Rabbi Yochanan de Resh Lakish, Rabbi Yochanan a opposé à Resh Lakish la braïta suivante. La braïta dit, « Pam achat matzua tzamot belishkat diraitim » Une fois, ils ont trouvé des ossements dans la salle qui servait d'entrepôt de bois, ou bikshu l'ixor tumal Yerushalayim, et à cause de ça, ils ont voulu décréter que toute la ville de Yerushalayim est impure, car il y a une possibilité qu'il y ait des ossements ou des cadavres ou des tombes n'importe où. Amad Rabbi Yoshua al-Raglav, Rabbi Yoshua s'est levé sur ses pieds vers Amar, il a dit, lo busha ukhli mahilanu, n'est-ce pas une honte pour nous, shenixor tuma al iravotenu, qu'on décrète une impureté sur la ville de nos ancêtres? Aye mette maboul, où sont les cadavres de l'époque du déluge? Apparemment, ce qu'il veut dire, qu'on trouve ailleurs dans le monde et pas ici en Eretz Israël. Aye mette Nebuchadnezzar, où sont les cadavres de ceux qui ont été assassinés par les mercenaires de Nebuchadnezzar à l'époque de la destruction du temple? Mi dekaamar hachi, puisqu'il s'exprime de cette manière en disant où sont les cadavres de l'époque du déluge, lave les membras de l'Ohavu, n'est-ce pas pour dire qu'ils n'ont pas existé? C'est donc une preuve pour l'opinion de Rabbi Yochanan. Resh Lakish lui répond, Velitamer, et selon toi qui interprète la Braïta de cette manière, Harugé Nebuchadnezzar Hachinami de l'Ohavu, en ce qui concerne les cadavres de ceux qui ont été assassinés par les mercenaires de Nebuchadnezzar à l'époque de la destruction du temple, peux-tu dire de même qu'ils n'ont pas existé? Il est évident que la terre d'Eretz Israël a été remplie de cadavres par les soldats de Nebuchadnezzar. Et là, forcément, tu devras dire « Havu ou Paninu », ils ont existé, mais ils ont été déblayés. « Hachanami », ici aussi, concernant les cadavres de l'époque du déluge, « Havu », ils ont existé en Eretz Israël, car la terre d'Eretz Israël a été aussi dévastée par le déluge, ou « Paninu », et ils ont été déblayés, et c'est pourquoi il n'y a pas lieu de décréter une impureté sur la ville de Yerushalayim. Rabbi Yochanan lui demande « Ve'iafnu », et si les cadavres de l'époque du déluge ont été déblayés?
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kufyud Gimel Amud Bet. Haifne, voici qu'ils ont été déblayés. De toute façon, il n'y a pas à craindre qu'il y ait des cadavres n'importe où. Il n'y a pas lieu de procéder à des fouilles avant de sacrifier la vache rousse. Resh Lakish lui répond, « Nehi deifneim Yerushalayim, il est vrai que les cadavres ont été déblayés de la ville de Yerushalayim ou de tout endroit habité à l'époque. Mikula eret Israël lo ifne. Mais de toute la terre d'Eretz Israël, donc aux endroits non habités, les cadavres n'ont pas forcément été déblayés. C'est pourquoi, lorsqu'on veut sacrifier la vache rousse, il faudra procéder à des fouilles à cet endroit pour s'assurer qu'il n'y a pas de tombe inconnue à cet endroit. » Ika d'Amré, il y a une deuxième version de cette question qui a été posée. C'est plutôt le contraire. Et Tivé, Resh Lakish le Rabbi Yochanan, c'est Resh Lakish qui pose la question à Rabbi Yochanan. Lorsque Rabbi Yoshua dit, Aye mette Maboul, Aye mette Nebuchadnezzar, où sont les cadavres de l'époque du déluge? Où sont les cadavres de ceux qui ont été tués par les soldats de Nebuchadnezzar à l'époque de la destruction du temple? Maïlav, n'est-ce pas que Midehane à vous, puisque ceci, les cadavres de ceux qui ont été tués par Nebuchadnezzar ont forcément existé? Hanenami Havu, cela aussi les cadavres de l'époque du déluge ont aussi existé en Eretz Israël, donc nous pouvons prouver de là qu'Eretz Israël a été dévasté par le déluge. Rabbi Yochanan répond, Mideiria, est-ce une preuve? Ha kedeite, celui-ci est comme il se trouve, ve ha kedeite, et l'autre comme il se trouve. c'est-à-dire concernant les cadavres de l'époque de Nebuchadnezzar, forcément ils ont existé, mais ils ont été déblayés, tandis que en ce qui concerne les cadavres de l'époque du déluge, nous pouvons toujours dire qu'ils n'ont jamais existé. En tout cas, nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il y ait des tombes inconnues en Eretz Israël. Il n'y a pas lieu de décréter d'impureté et d'exiger des fouilles lorsqu'on veut sacrifier la vache rousse. Nous lisons selon la Shita Mekoubetset, Etive, Resh Lakish, le Rabbi Yochanan, le Passouk dit, concernant le déluge dans Bereshit Zayin, Mikol Asher Becharava Metu, tous ceux qui se trouvaient sur la terre ferme sont morts. Bishlama le Didi, on comprend bien, selon moi, d'Amina qui dit Yarad Mabou l'Eret Israël, que le déluge a dévasté aussi Eret Israël, Mishumachim et tout, nous comprenons pourquoi tous ceux qui étaient sur la terre ferme, même en Eret Israël, sont morts. Et là, les Didach, mais selon toi qui dit que le déluge n'a pas dévasté Eret Israël, Amaim et tout, pourquoi sont morts ceux qui habitaient en Eret Israël à l'époque? Rabbi Yochanan répond Mishum Havla, ils sont morts à cause de l'air vicié et qui était brûlant, par conséquent, personne n'a pu survivre. Kedé Rav Chisda, et ceux comme l'a dit Rav Chisda, d'Amar Rav Chisda, Berotrim Kilkelou, ils ont péché par quelque chose de brûlant, faisant allusion à la semence qui est brûlante. Autrement dit, ils ont fauté par les relations incestueuses. Ou Berotrim Nidonou, ils ont été châtiés aussi par quelque chose de brûlant, donc l'eau brûlante. Dirtivacha, car il est écrit ici dans Bereshitret concernant le déluge. C'est en fait lorsque le déluge a commencé à se calmer. Le pasouk dit, Vayashochu Amaim, et l'eau s'est apaisée. Urtivatam, et là-bas il est écrit dans Esther Zayin, Vachamat Hamelech Shachacha, et la colère du roi s'est apaisée. De même que nous comprenons que la colère dégage de la chaleur. Et donc, lorsqu'on dit que la colère du roi s'est apaisée, il s'est, pour ainsi dire, refroidi. Lorsque nous parlons de l'eau aussi qui s'est apaisée, en fait, ce que le pasouk veut dire, c'est qu'elle s'est refroidie. Donc, avant, elle était brûlante. Et c'est cela qui a causé même les habitants d'Eretz Israël de mourir, car l'air était devenu brûlant. Ika d'Amré, il y a une deuxième version concernant cette question. Et Tive, Rabbi Yochanan, l'Eresh Lakish. Lorsque le Passouk dit dans Bereshit Zayin concernant le déluge, Mikol Asher Becharava Metu, tous ceux qui se trouvaient sur la terre ferme sont morts. En Bishlama, les Didi, on comprend bien, selon moi, d'Amina, Loyarad Mabou, l'Eretz Israël, qui dit que le déluge n'a pas dévasté Eretz Israël, Mishumachi Have Harava. Nous comprenons pourquoi il y avait de la terre ferme, même à l'époque du déluge, et quand même tout le monde est mort, comme nous l'avons dit précédemment, par l'air qui était devenu brûlant. Et là, le Didach, mais selon toi, Maï Harava, que veut dire le Passouk lorsqu'il parle de terre ferme, puisque toute la terre a été inondée, Eretz Israël inclus? Reste là qui je réponds, Harava, Shaita, Meikara. Le Passouk parle de ce qui était de la terre ferme à l'origine. Maï Karela Harava, et pourquoi est-ce que le Passouk qui parle de la terre, donc la traite, la terre ferme, à l'origine, il répond que de Rav Chisda, et ce comme l'enseignement de Rav Chisda, d'Amar Rav Chisda, Bedor Hamaboul, Lo Nigzera Gzeral Dagim Shebayam, à l'époque du déluge, le décret d'anéantissement n'a pas touché les poissons qui se trouvaient dans la mer. Sheneemar, car le Passouk dit dans Bereshit Zayin, Mikol Asher Becharava Metu, tout ce qui était sur la terre ferme sont morts, Velo Dagim Shebayam, et non pas les poissons qui se trouvaient dans la mer. Et c'est donc cela que le Passouk veut dire, que le décret d'anéantissement a touché uniquement ceux qui étaient sur la terre ferme à l'origine. Bishlama leman de'amar lo yarad mabul l'Eret Israël. On comprend bien, selon l'opinion qui dit, donc selon Rabbi Yochanan qui dit que le déluge n'a pas dévasté l'Eret Israël. Haynu dekam rema'atam. Nous comprenons que l'animal qui s'appelle Re'em, selon Rashi, il s'agit vraisemblablement d'un animal énorme semi-aquatique qui se trouve sur le bord de la mer. Nous comprenons comment il est resté en vie, c'est qu'il était en Eretz Israël, et comme il était énorme, il se trouvait au-dessus de l'air brûlant, il a donc pu rester en vie. Et là, le mandamar yarad, mais selon l'opinion qui dit que même en Eretz Israël, le déluge a dévasté, donc Eretz Israël était aussi inondé par le déluge, Rema Hechakam, où est-ce que cet animal se trouvait, comment a-t-il été sauvé, parce qu'on en parle aussi après l'époque du déluge. Ma réponse à Marabianaï, Gurayot Hichnisu Beteva, Noach a fait rentrer des petits dans son arche. Alors, la Gmar demande, c'est impossible. Veha Amar Rabba Babarhana, le Didi Chazeli Urzila de Rema Batyoma, j'ai vu moi-même un petit Rehem le jour de sa naissance, Vehave Kehar Tavor, il avait la taille du mont Tabor. Vehar Tavor Kamahave, quelle est la taille du mont Tabor? Arbaïn Parse, sa taille est de 40 parsa, soit approximativement 192 km. Mashrad et Savré, la peau de son cou, Tlata Parsa avait une taille de 3 parsa, soit environ 14 km et demi. Mirabata Aderecha, Parsa ou Palga, et l'endroit où reposait sa tête, avait une taille d'un parsa et demi, soit un peu plus que 7 km. Rama Kava, il a lâché des excréments, Vesacha Yardena, et ceci a bouché le Jourdain. Même si nous voulons dire que lorsque Rabba Baba Hana a raconté cela, il a voulu cacher des enseignements sacrés, comme le disent beaucoup de commentaires dans Masechet Baba Batra, Daf Ein Gimel Amud Bet. Néanmoins, étant donné qu'il a pris comme exemple le petit d'Urem, le jour de sa naissance, forcément, c'est que même ce petit était énorme dans la réalité. Puisque c'est ainsi, il est impossible de concevoir qu'on en ait fait rentrer dans l'arche de Noé. L'Agma répond, Amar Rabbi Yochanan, Rosho Ichnis la Teva, Noach a fait rentrer la tête d'un des petits d'Urem dans l'arche. L'Agma demande, Amar Mar, pourtant il a été dit, Mirabata Derecha Parsa Opalga, l'endroit où repose sa tête était d'une taille d'une parsa et demie, donc ce qui était aussi énorme. Et là, plutôt, Rosh Chotmo Hichnisu la Teva, il n'a fait rentrer que le bout de son nez dans l'arche, ainsi le Rem a pu respirer, et c'est ceci qui l'a maintenu en vie. La Gemara demande, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a-t-il dit cela, ben Amar Rabbi Yochanan, le Yarad Maboul, l'Eret Israël? Pourtant Rabbi Yochanan dit que le déluge n'a pas inondé Eret Israël. La Gemara répond, le divrei Resh Lakish Kaamar, il a répondu cela pour répondre l'opinion de Resh Lakish, même si lui-même n'avait pas besoin de le dire. Alors la Gemara reprend donc cette réponse, qu'on a fait rentrer le nez du Rehem dans l'arche. La Gemara demande, Veha Kasagiateva, pourtant l'arche avançait. Forcément, puisque l'arche montait et descendait par les vagues de la mer, le nez se serait forcément détaché et le Rehem mourrait. La Gemara répond, Amar Resh Lakish, Karnav Kashru Bateva, ils ont attaché les cornes de ce Rehem à l'arche et ainsi il s'est maintenu en vie lorsque son nez se trouvait dans l'arche. La Gemara demande, Bahamar Rafrizda, Anche Dor Hamaboul Berotrim Kilkelou, les hommes de l'époque du déluge ont fauté par quelque chose de brûlant, ce qui fait allusion à la semence. Autrement dit, ils ont fauté en ayant des relations incestueuses, ou Berotrim Nidonou, ils ont été châtiés aussi par quelque chose de brûlant. Comme nous l'avons dit précédemment, l'eau du déluge était brûlante. Donc, même si le nez du Rehem était dans l'arche, cependant, il aurait été ébouillanté par l'eau du déluge. Alors, la Gemara demande, Vili Tamer, et selon toi qui pose cette question, Teva Herisagia, comment est-ce que l'arche a pu avancer, puisqu'elle était enduite de poids, la poids aussi aurait fondu, et donc l'arche aussi aurait été inondée. Veod, et en plus, Og Melech Habashan Hechakae, où se trouvait Og Melech Habashan, car le Pasuk dans Bereshit Yuddalet, qui dit qu'un des rescapés est venu annoncer à Abraham Avinu que Lot a été pris en captivité. Et Rabbi Yochanan dit dans Masechet Nida Daf Samech Aleph qu'il s'agit de Og Melech Habashan, qui était le seul rescapé du déluge à part Noach. Donc, comment est-ce que Og Melech Habashan a survécu? Et là, forcément, Nes Naselahem Venitstanenu Betzidea Teva, un miracle a eu lieu et l'eau qui se trouvait tout autour de l'arche s'est refroidie, a été refroidie donc par ce miracle, et ils ont pu survivre tout en restant dans l'eau, et c'est ainsi aussi que la poix n'a pas fondu. Dans la Gemara demande, ou le Resh Lakish, Nehi Namid Erad Maboul, l'Eret Israël, même selon l'opinion de Resh Lakish, qui dit que le déluge a inondé Eret Israël, Behalopash, pourtant, aucun des cadavres n'est resté sur place. De Amar Resh Lakish, car Resh Lakish dit, Lama Nikra Shemah Metzula, pourquoi est-ce que le pays de Babel s'appelle Metzula, qui veut dire quelque chose de profond? Il répond, Shekol Mete Maboul Nitzta Lelusham, c'est pour enseigner que tous les cadavres du déluge ont dégringolé pour arriver en Babel. De Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Lama Nikra Shema Shinar, pourquoi est-ce que Babel s'appelait Shinar? Shekol Mete Maboul Ninarusham, c'est pour nous enseigner que tous les cadavres du déluge ont glissé jusqu'à là-bas. En tout cas, donc, soit selon Resh Lakish, soit selon Rabbi Yochanan, de toute façon, les cadavres se trouvaient en Babel et ne sont pas restés ailleurs, donc même en Eretz Israël, si ce pays a été inondé par le déluge. La Gemara répond, Yevchar de lo idbeku, il est impossible qu'il n'y en ait pas eu au moins un ou quelques-uns qui sont restés dans la boue. Et c'est pourquoi selon Rish Lakish, il faut procéder à des fouilles avant de sacrifier la vache rousse. Mais si Eretz Israël n'a pas été inondé par le déluge, comme le dit Rabbi Yochanan, même si tout le monde est mort là-bas, mais ils sont restés apparents sur terre, et ils ont pu être déblayés pour être enterrés. Amar Rabbi Avahu, Lama Nikra Shema Shinar, pourquoi est-ce que Babel s'appelait Shinar? Il répond, Shemena Eret Ashirea, car ce pays secoue et se débarrasse de ses riches. Autrement dit, les riches là-bas ne restent pas longtemps riches et font souvent faillite. La Gemara demande, pourtant nous voyons qu'il existe des riches en Babel. La Gemara répond, Tlata Dare Lomashre, mais la richesse ne se poursuit pas plus de 3 générations. Et cela, car la Gemara dit dans Maseret Betzada Flamet Bet que les habitants de Babel n'avaient pas l'habitude d'avoir pitié des pauvres et de les nourrir, et c'est pour cela qu'ils ne méritaient pas la richesse. Amar Ravami, Kol Haochel Meafra Shel Babel, tout celui qui mange de la terre du pays de Babel, Keilu Ochel Basar Avotav, c'est comme s'il mangeait la chair de ses ancêtres, car comme nous l'avons dit précédemment, tous les cadavres de l'époque du déluge se sont retrouvés et regroupés en Babel. Tanya Namiachi, Kol Haochel Meafra Shel Babel, tout celui qui mange de la terre de Babel, Keilu Ochel Besar Avotav, c'est comme s'il mangeait la chair de ses ancêtres, Beyeshomrim, Keilu Ochel Shkatsim Urmasim, c'est comme s'il mangeait de la chair des reptiles et des insectes qui sont morts aussi à l'époque du déluge et qui sont arrivés aussi donc dans la terre de Babel. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Sahira Mishtaleach, etc. Celui qui sacrifie la vache rousse ou le bouc émissaire à l'extérieur n'a pas transgressé l'interdiction, étant donné que le pasouk dit dans Vaikra Yudzaïn, et il ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire pour l'offrir comme sacrifice, étant donné que ces sacrifices ne sont pas destinés à être offerts dans le sanctuaire, ils ne sont pas concernés par cette interdiction. La Gemara demande, Veraminhi, on a opposé à cela une braïta qui interprète les psukim dans Vaikra Yudzaïn. Alors le pasouk dit, il ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire pour l'offrir comme sacrifice. Alors, la Braïta commence par dire que cette interdiction ne concerne que celui qui offre un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire, mais non pas celui qui sacrifie un animal profane à l'intérieur du sanctuaire. La Braïta poursuit, « Oh, Korban, ou bien nous interpréterons le terme de Korban de la manière suivante. « Shomea ani, afilu koche bedekabait shenikriu Korban » On peut déduire de ce pasouk que même les animaux qui ont été sanctifiés pour la réfection du temple sont aussi concernés par cette interdiction, car ils se nomment aussi Korban, chez Nehemar, comme le pasouk dit dans Bamidbar Lamed Aleph. Lorsque les officiers qui sont revenus de la guerre de Midian ont offert un cadeau pour la réfection du temple, le pasouk dit Vanakrev et Korban Hashem, et on a offert un sacrifice pour Hashem. En fait, il ne s'agit pas d'un sacrifice, mais plutôt d'une offrande pour la réfection du temple. Puisque nous voyons que le pasouk emploie ce terme de korban, même pour ce qui est sanctifié pour la réfection du temple, on pourrait dire donc qu'un animal qui aurait été sanctifié, non pas pour être sacrifié, mais pour la réfection du temple, est aussi concerné par cette interdiction, et s'il est sacrifié à l'extérieur, une personne se rend coupable d'avoir transgressé cette interdiction. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit « Bel petach ohel moed lo evio » et il ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire. « Mi shera'u ilavo be'ohel moed » Cette interdiction ne concerne que celui qui est apte à être amené devant la porte du sanctuaire pour être offert comme sacrifice. Yatsu kochev et dekabait, sont exclus ce qui est sanctifié pour la réfection du temple, chez Namrouim, qui ne sont pas aptes à être sacrifiés comme sacrifice devant la porte du sanctuaire, étant donné qu'ils ne sont pas destinés à cela. Forcément, le terme de Korban vient enseigner, comme nous l'avons dit précédemment, que celui qui sacrifie un animal profane dans le sanctuaire n'a pas transgressé cette interdiction. Otsi et Elou, j'exclurai cela donc les animaux qui sont sanctifiés pour la réfection du temple chez Enam Rouyim, qui ne sont pas aptes à être offerts comme sacrifice car ils ne sont pas destinés à cela. Velo Otsi et Tsahir Amishtaleach, mais je n'exclurai pas le bouc émissaire chez Ouraoui, Lavo, El Petahu El Moed, qui lui est apte à être amené devant la porte du sanctuaire. En effet, avant de précipiter le bouc émissaire du haut de la falaise, il fallait le faire entrer dans le sanctuaire pour procéder au tirage au sort et pour la prière du vidouille, qui veut dire littéralement l'aveu. C'est une prière où le Kohen Gadol reconnaît les péchés de Bnei Israël et implore le pardon. En tout cas, ces deux actions se faisaient dans le sanctuaire, en présence du bouc émissaire. Alors, il est en poursuite, Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit l'Hachem. Donc, il ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire pour l'offrir comme sacrifice pour Hachem. Ce terme pour Hachem, le Otsi Saira Mishaliach, vient exclure le bouc émissaire, Shalom Yuchad l'Hachem, car il n'est pas destiné à être offert spécialement pour Hachem. En effet, il est précipité du haut de la falaise. En tout cas, nous voyons dans cette braïta que nous excluons le bouc émissaire du terme l'Hachem et non pas du passage qui dit « et il ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire » car en fait, le bouc émissaire est destiné à être emmené devant la porte du sanctuaire. L'Agma répond « l'Akashia, il n'y a pas de contradiction. » Kan, ici, dans la braïta, Kodem Agrala, elle parle du bouc émissaire avant qu'on ait procédé au tirage au sort. À ce stade, si le bouc émissaire est sacrifié à l'extérieur du sanctuaire, alors que finalement, il doit encore se présenter devant la porte du sanctuaire, on ne peut donc pas dire que cette personne n'a pas transgressé l'interdiction car il a offert un sacrifice qui n'était pas destiné à être emmené devant la porte du sanctuaire, mais plutôt, on l'exclut du terme « l'Hachem » comme nous le voyons dans la Braïta. Kan, ici dans la Mishnah, l'Achar Grala, il s'agit du bouc émissaire après qu'on ait procédé au tirage au sort, il n'a plus rien à faire dans le sanctuaire. À ce stade, nous apprenons de l'expression du Passouk qui dit « et il ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire » pour exempter celui qui l'a sacrifié à l'extérieur du sanctuaire. Alors la Gemara demande, « Achar Grala, même après le tirage au sort, Nami Haïka Vidoui, pourtant il y a encore le Vidoui. » Donc c'est cette prière où le Kohen Gadol reconnaît les péchés des Béné Israël pour implorer ensuite le pardon. Comment peut-on dire donc que la Mishnah parle du stade après le tirage au sort? La Gemara répond, « Et là, plutôt, Amar Ravmani, la Kashia, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. » Kan, ici, dans la Braïta, Kodem Vidouille, il s'agit du stade avant que le Kohen Gadol ait fait la prière du Vidouille. Donc, le bouc émissaire doit être encore devant la porte du sanctuaire. On ne peut donc pas l'exclure du passage qui dit « et il ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire » ou l'exclut plutôt du terme de Hachem, comme nous l'avons vu dans la Braïta. Kan, ici, dans la Mishnah, l'Achar Vidouille, il s'agit du stade après que le Kohen Gadol ait fait la prière du vidouille. À ce stade, le bouc émissaire n'a plus rien à faire dans le sanctuaire. Donc, on peut l'exclure du passage du Passouk qui dit « et ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire » pour exempter celui qui le sacrifie à l'extérieur. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Zvachim Daf Kufyud Gimel. Nous commençons le shiur de Masechet Zvachim Daf Kufyud Dalet. Nous commençons d'Af Kufyud Gimel Amud Bet à la dernière ligne en bas de la page. Nous avons vu au début du chapitre que celui qui sacrifie la vache rousse ou le bouc émissaire en dehors du sanctuaire n'a pas transgressé l'interdiction étant donné que le Passouk dit dans Vaikra Yudzaïn et il ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire alors que ses sacrifices ne sont pas destinés à être emmenés devant la porte du sanctuaire. La Mishnah poursuit en disant que celui qui sacrifie à l'extérieur du sanctuaire un sacrifice invalidé comme l'animal qui a été victime d'un accouplement avec un homme, ou bien celui qui a été désigné comme idole, n'a pas transgressé l'interdiction. Là-dessus, la Mishnah amène un autre passouk. Il n'a pas amené le sacrifice devant le sanctuaire d'Hachem. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Rovea vanirba, celui qui offre à l'extérieur du sanctuaire un sacrifice invalidé, comme celui qui a été victime d'un accouplement avec un homme, ou l'animal qui s'est accouplé avec un homme, etc., n'a pas transgressé l'interdiction. » Comme nous l'avons dit, la Mishnah amène un autre passouk. Alors la Gemara demande, Vehanami tipuklimi petachu el moed. On devrait apprendre aussi cela du passage du passouk qui dit il ne l'a pas amené devant la porte du sanctuaire, puisque finalement il s'agit d'un sacrifice invalidé qui ne peut pas être offert comme sacrifice.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.